Canal Académie. Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis donc face à Cédric Villani.
Bonjour Étienne.
Qui aujourd'hui a une voix bien cassée, n'est-ce pas ?
Ouais. Comme je passe partie de mes journées à parler, et un mal de gorge peut vite se transformer en un vrai enrouement, comme on voit. Ça me fait la voix plus grave que d'habitude. Bon, c'est comme ça.
À cela ne tienne, le logiciel permettra de changer la fréquence.
Ah ben voilà, c'est ça, c'est l'équivalent sonore du Photoshop.
D'accord, je m'en charge. Bon, finalement, je ne vais pas modifier la voix grave de Cédric. Voyez ce que ça donne quand je le monte de deux tons.
Ça me fait la voix plus grave que d'habitude. Bon, c'est comme ça.
Et quand je le monte de 4 tons.
Ça me fait la voix plus grave que d'habitude. Bon, c'est comme ça.
Alors, gardons la voix naturelle de Cédric, bien qu'elle soit cassée. Alors, aujourd'hui, Blaise Pascal, le politique. C'est étonnant, les gens sont surpris. On pense à Pascal comme un philosophe, comme un mathématicien. Peut-être un peu comme un entrepreneur avec sa machine à calculer ou avec ses carrosses à 5 sous. Mais tu me parles de son point de vue politique. Je t'écoute.
Tu dis que les gens connaissent peut-être comme entrepreneur. Ça, c'est une toute petite minorité d'expérience qui a conscience que Blaise Pascal était aussi un entrepreneur. Mais il faut insister sur le fait que Blaise Pascal était aussi quelqu'un de très en prise avec le monde. C'était pas juste une période dans sa vie, comme on le disait à une époque, le moment où il s'est mis à fréquenter le monde, puis où il s'en retire jusqu'à la fin. Par exemple, tu parles du carrosse à 5 sols, ben ça c'est dans les dernières années de sa vie qu'il a lancé ça, à l'époque où il était censé être le plus profondément en religion. Donc c'est pas vrai, cette légende du Pascal qui se retire du grand monde, tout en ayant bien sûr des activités ici et là, et sont barissantes, si je puis dire, se déplacent, mais ils restent intéressés par les choses du monde jusqu'à la fin.
En effet, c'est étonnant. Donc, à l'époque où tout le monde dit qu'il ne pensait qu'à Dieu, on voit qu'il pensait aussi à ses sous.
Il pensait à ses sous, il était lancé. Et pour le plaisir, hein, parce qu'il n'avait pas besoin de gagner de l'argent pour vivre, mais quand il se lance dans la pascaline, c'est pas le premier à chercher à faire une machine à calculer, mais c'est le premier à faire une machine à calculer en tant que projet économique. Et même, moi, c'est peut-être l'aspect... Je sais que tu l'as traité par ailleurs avec Gilles Dewec, la calculatrice. Mais pour moi, le plus fascinant de tout, quand j'ai relu Pascal, en préparation de ce 400e anniversaire, sont les textes qu'il écrit sur sa machine à calculer, qu'on appelle maintenant la pascaline, et où j'y vois un croisement entre les grands thèmes philosophiques pascaliens habituels, où on parle de la dialectique, les paradoxes, le divertissement, etc., etc., et tous les thèmes de la Silicon Valley, les thèmes de la tech, qui vont être la relation directement avec l'usager, le discours sur la vie qui se transforme, l'obsession pour la propriété intellectuelle, l'obsession pour le design et tout ça.
Le lien aussi avec les hommes ou les femmes de pouvoir.
Ben, on y vient, ça va être l'une des entrées vers ce Pascal et la politique. Ce sujet, comme sur tous les autres, Pascal aime être paradoxal. On va commencer à installer un premier paradoxe. Pascal ne pense pas beaucoup, n'a pas une grande estime pour le monde politique, mais quand il en a besoin pour ses intérêts, il y va à fond et il sait servir des rouages de la politique. Voici une citation que j'adore de Pascal. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'était des gens honnêtes comme les autres, riants avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus sérieuse était de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlent pensent être rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au moins mal qu'il se peut.
C'est écrit à quelle époque et dans quel texte ?
Ça, c'est dans ses pensées. Donc, je ne saurais pas le dater exactement, mais ça a été publié posthume, hein, les pensées. Hein. On sait, c'est les brouillons récupérés. Certainement, les spécialistes savent le dater. Et d'abord, c'est très bien écrit, comme tout dans Pascal. Ensuite, l'image, il te dit, voilà, vouloir édicter des lois politiques pour faire marcher le monde, c'est comme vouloir régir un hôpital de fous. Bon. Et puis il dit bien, les rois et les empereurs, ils croient être rois et empereurs, mais sont des fous comme les autres. Et si Platon et Aristote leur donnent des conseils, hein, Platon, la République, tout ça, en fait, ils font semblant de se prendre au jeu, mais ils savent bien que les empereurs sont des fous comme les autres. Donc il a l'air là, vraiment de jeter ça de côté, dire tout ça c'est une affaire de fous, laisse tomber. Mais pourtant, on voit que Pascal, quand il en a besoin, il comprend très bien les ressorts de cette vie politique, où est-ce qu'il faut agir, qu'est-ce qui tient le monde. Il a une capacité d'analyse qui est excellente. On sait que l'un des personnes que Pascal admire énormément, parfois pour s'en démarquer, c'est Montaigne. On sait que dans la proximité de Montaigne, aussi bien intellectuelle qu'affective, il y a La Boétie. Et La Boétie a écrit un traité qui parle de la servitude volontaire et le contraint, qui est aujourd'hui, ici et là, repris, remis en avant par des activistes. On le trouve par exemple dans le dernier ouvrage de Camille Etienne, qui est l'un des premiers ouvrages analysant les structures de peur qui régissent la société. Comment les gens, chacun a peur de l'échelon suivant et comment tout l'ensemble tient comme une espèce de pyramide. Et Pascal n'est pas du tout dans une vision aussi critique, c'est pas du tout un révolutionnaire que ce qu'est La Boétie, mais il comprend parfaitement les façons dont fonctionne ce monde. Je vais lire un petit extrait d'une lettre que Pascal écrit à monsieur le chancelier Séguier au moment où il a besoin d'un appui politique pour développer sa pascaline. Et c'est une lettre parfaitement servile, même en tenant compte des conditions de l'époque, dans laquelle il flatte le chancelier. Vraiment, il dit « Moi, c'est un petit mérite, j'ai juste fait la machine, mais vous, c'est extraordinaire. En effet, monseigneur, quand je me représente que cette même bouche, la bouche du chancelier Séguier, cette même bouche qui prononce tous les jours des oracles sur le trône de la justice, a daigné donner des éloges au coup d'essai d'un homme de 20 ans. Il est fier, hein, j'ai que 20 ans, mais... Que vous l'avez jugé digne d'être plus d'une fois le sujet de votre entretien et de le voir placé dans votre cabinet parmi tant d'autres choses rares et précieuses dont il est rempli, je suis comblé de gloire. Et je ne trouve point de parole pour faire paraître ma reconnaissance à votre grandeur et ma joie à tout le monde.
Aujourd'hui, on dirait qu'il est un peu lèche-cul.
On dirait exactement ça. Et il excelle aussi dans cet art quand il faut. Alors, là, il y a un paradoxe. En même temps, Pascal assume ce paradoxe complètement dans un ensemble de discours qu'il a laissés. On n'a que la transcription faite par Pierre Nicole. 3 discours sur les grands ou quelque chose comme ça. Quel est le titre exact ? Discours sur la condition des grands. Qui sont comme des conseils aux futurs politiques, et dans lesquels il leur dit, premièrement, vous recevez le pouvoir en héritage, c'est comme ça.
Là, c'est beaucoup plus tardif, c'est à Port-Royal, j'imagine, alors.
Ça va être à Port-Royal, et c'est plus tardif, c'est bien plus tardif, et il leur donne quoi, conseil, ça serait aujourd'hui, tu viendrais à l'ENA donner tes conseils à la future classe dirigeante. Et il a cette image, belle image, comme toujours dans Pascal, imaginez, un homme qui, dans un naufrage, se retrouve atterrir sur une île qu'il ne connaît pas. Et là-bas, il se trouve qu'ils ont perdu leur roi, mais il y a une grande ressemblance physique avec le roi. Et donc, il le voit, il dit « ça y est, notre roi est de retour, il l'acclame et tout ça ». Et notre homme se dit ah, « il se trompe, qu'est-ce que c'est ?» Mais il voit bien qu'il est attendu, acclamé, qu'il peut être utile là-dedans, et il va pas oser leur révéler qu'il n'est pas le roi, mais il va faire comme si. Et bien, Pascal dit « c'est le même état d'esprit que vous devez avoir. Gardez en tête que votre rang, votre fortune, vos titres, tout ça vient du hasard. C'est le hasard de l'héritage, des magouilles, de tel discours qui a été prononcé, qui a fait se marier votre arrière-grand-mère avec votre arrière-grand-père ou qui sait quoi. Bon. Et donc vous êtes là, pas plus qu'un autre. Mais jouez la comédie. Faites comme si et tâchez de faire le bien là où vous êtes. Donc cette contradiction, le fait que tel et tel est roi, c'est complètement le hasard, mais il faut l'accepter. Et Pascal l'assume aussi dans un de ses discours en disant, d'abord, acceptez les compliments qui vous sont donnés quand c'est des compliments faits à la fonction, pas à l'homme. Ouais, ces gens, ils vous aiment. Ils vous aiment pas parce que vous êtes beau et intelligent. Ils vous aiment parce que vous avez du pouvoir. Peut-être que vous êtes beau et intelligent aussi, mais si c'est pas le cas, ne leur demandez pas de vous admirer pour ça. Et mettez votre plaisir seulement à être bienfaisant. Et il dit bien, quelqu'un ou moi qui suis là, je me prosterne devant le roi. Il dit exactement, il faut parler au roi à genoux. Il faut se tenir debout dans la chambre des princes. C'est une sottise et une bassesse d'esprit que de leur refuser ses devoirs. Mais il dit bien, c'est seulement à la fonction, devant la fonction qu'on s'agenouille, pas devant l'homme. Et rien ne m'empêche d'avoir en privé le plus profond mépris pour cette personne si je sais que c'est quelqu'un de bas et de lâche et tout ça. Et donc Pascal, on peut imaginer que Peirce n'a pas forcément explicité le jeune Pascal quand il faisait son compliment au chancelier Ségué, il se disait en soi-même, ben voilà, je fais cette lettre et tout ça parce que c'est quelqu'un de pouvoir, mais en moi-même, je sais bien qu'il vaut pas tant que ça. Alors pourquoi Pascal faisait cette lettre au chancelier Ségué? Parce qu'il avait besoin de sa protection. Il intriguait pour avoir l'équivalent d'un brevet. Ça n'existait pas encore les brevets, mais il y avait ce privilège royal. Très intéressant à lire d'ailleurs, où on voit qu'en gros, n'importe quelle machine calculante, quelle que soit la technologie, si elle n'était pas signée de Blaise Pascal, on pouvait foutre...
Brevet qu'il a obtenu finalement ?
Il l'a obtenu. On a là, dans les œuvres de Pascal, dans l'édition qu'on trouve sur Gallica et tout ça, on voit le texte de ce privilège qu'il a obtenu. On voit aussi des indications sur ses plans en matière économique. Il avait conscience que sa pascalité était trop chère, qu'il lui fallait abaisser le prix, qu'il lui fallait faire ça en série. Et qu'il lui fallait... Il voulait un monopole pour ça. Il voulait un marché réservé. Il est... De la même façon que plus tard, il se lance dans l'aventure du carrosse à 5 sols, première entreprise de transport en commun au monde.
Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a eu l'idée du transport en commun ?
Ils étaient 4 associés. Je ne peux pas te dire lequel parmi les 4.
Mais je veux dire, il n'y a pas eu, pas eu d'idée avant.
Non, pas explicite en tout cas. La première fois que quelqu'un dit un truc qui va se déplacer à horaire fixé, on paiera un tarif fixé, et où ça se déplacera même s'il n'y a personne... Genre le carrosse arrive, il n'y a pas de passagers, mais on continue vers l'arrêt suivant, etc. C'est à cet endroit-là. Il y a eu une première ligne, ça aboutissait, c'était quoi ça... Oh là là, je ne sais plus, elle arrivait à... Mais tout ça, c'est documenté. Hein. Je sais que la conclusion, c'était le jardin de Luxembourg. Et puis, il y a eu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième ligne, et même une qui était circulaire. Et sur laquelle, il y avait un tarif différencié selon que tu sortais à tel ou tel endroit.
5 sols. C'est beaucoup ?
5 sols, c'était la limite acceptable. La preuve en est que quand c'est passé à 6 sols, il y a eu des protestations très vives. Ça a tenu, c'était un grand succès d'abord. C'était un vrai grand succès, ce truc, dont tout le monde a parlé. Il y a eu quelques petits cafouillages. D'abord, à un moment, le Parlement décide, contre l'avis du roi, que ça sera seulement pour les gens de haute classe et que les servants, les soldats en seront interdits. Si je comprends bien aussi, il y avait un sujet que quand un noble rentrait, ou je sais plus, quelqu'un de tel grade rentrait dans le carrosse, les autres devaient sortir, qui chagrinait Pascal sans qu'on puisse savoir si c'était parce qu'il trouvait ça injuste ou parce que ça allait bousiller les modèles économiques.
Ça a été une opération financière rentable pour Pascal ?
Pour là aussi, j'ai pas étudié suffisamment en détail pour dire, mais le truc a survécu, a tenu le coup, alors que la Pascaline n'a jamais pris financièrement. Ça a tenu le coup. Ça a fini par disparaître, je sais pas, une quinzaine d'années après la mort de Pascal, mais ça a tenu le coup. Insister maintenant sur le fait que Pascal, il a cette vision de la politique, il a aussi, d'une part, des idées claires et originales sur la façon dont fonctionne la politique, dans certains de ses ressorts, de ses détails, de ses recettes, et d'autre part des images, des métaphores qui sont politiquement fortes et qu'aujourd'hui encore on retrouve reprises dans des contextes politiques. Voici un exemple. Pascal nous dit, en parlant de, là encore, sa fameuse obsession sur la machine, la coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, font que leur visage, quand il est quelquefois seul et sans ses accompagnements, imprime dans leur sujet le respect et la terreur. Hein, il dit, je me suis habitué à voir un tel toujours passer avec son carrosse, ses gens, un grand roulement, et ça me fait peur. Et après, quand je vois le gars tout seul, mon réflexe, c'est de me ressentir cette émotion et cette peur. Et j'en viens à dire, voilà, et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force naturelle, et de là viennent ces mots, le caractère de la divinité est empreint sur son visage, etc. Donc il a bien en tête l'idée, les réflexes, le travail sur l'inconscient, le travail sur le biais cognitif qui fait qu'on arrive, le nudge aussi, on dirait de nos jours, qui fait qu'on arrive à faire passer les messages de façon inconsciente et subreptice. Bon. Voici un exemple qui, moi, m'a... Que j'ai rencontré dans ma vie politique, c'est quand on avait un paradoxe en face de nous à expliquer à l'Office parlementaire scientifique. On se rend compte que, dans 2019, le scepticisme vaccinal en France, il est très élevé, comme c'est depuis longtemps, mais il a incontestablement reculé sur les deux dernières années, alors que le gouvernement, en 2017, a imposé un certain nombre de vaccins obligatoires. Bon. 2017, je me disais... Ouais, c'est un peu bêta, il y a déjà un vaccino-scepticisme très élevé en France. Vouloir imposer comme ça plein de nouvelles vaccinations, ça va braquer les gens. Ça va les rendre encore plus méfiants. Deux ans plus tard, je vois que je me suis planté, comme pas mal de monde. Le scepticisme a reculé. Encore aujourd'hui, la meilleure explication que je vois à cet effet, c'est cette idée de la machine pascalienne. On te force à te faire vacciner, ok, mais tu y vas, tu te fais vacciner, la voisine se fait vacciner, les enfants, etc. Et tu t'y habitues. Et ce réflexe, tu le rationalises a posteriori, en disant, ben, puisque je l'ai fait, c'est que ce n'est pas si, dangereux.
Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, que la crainte de la vaccination a baissé dans notre pays?
Ah, sûr. Entre 2017 et 2019, sûr.
Ah oui.
Après, ça a remonté, il y a eu tout le bazar sur le Covid et tout ça, mais il y avait un...
Avant le Covid.
Avant le Covid.
Ah, excuse-moi, d'accord.
Avant le Covid.
D'accord.
Après, il y a eu le Covid et ça a été tout un autre débat. Mais d'accord. Avant le Covid, on était face à des chiffres qui étaient en baisse et c'était
d'accord.
Paradoxal.
D'accord.
Et moi, j'y vois cette idée que Et dans d'autres domaines, après tout. Il y a des domaines dans lesquels, dans un premier temps, il faut contraindre les gens. Et ensuite, la contrainte est comme... C'est une habitude, on s'y fait. De la même façon, d'ailleurs, qu'il a fallu contraindre les gens pour la ceinture de sécurité alors qu'ils ne la voulaient pas, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on voit que le discours de Pascal sur la force de la machine, comme on sait, son discours sur le pari, c'est-à-dire le discours de la machine et son idée importante, si... C'est le fait d'aller à l'église qui vous amène à croire plutôt que le contraire. Bon. Alors, voici maintenant un exemple d'image de Pascal, très fort, qui me marque comme une image politiquement forte. C'est dans ses textes sur le divertissement. Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour la prendre, cette heure suffisant s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là, non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piqué. Bon. T'es dans ta cellule, t'as une heure t'en sort, ta vie va se décider. Tu peux, si tu t'actives, tu t'informes, tu tiens au courant, tu intrigues, tu peux te sauver. Mais au lieu de ça, tu vas jouer au piqué, jouer au jeu de hasard, et qui sait quoi, t'occuper. Moi, j'y vois une métaphore parfaite de la civilisation d'aujourd'hui face au réchauffement climatique. Ou à la crise écologique. On sait le mal. On sait les remèdes. Si on en veut, on sait qu'on peut résoudre les choses dans le peu de temps, le très peu de temps, les 25 ans que nous donne le GIEC, ou même moins, c'est une heure à l'échelle de la société. Mieux de ça, on s'occupe, on se lance des grands défis, on se fait les grandes batailles, on se fait la guerre, on s'attaque sur le réseau, on fait ci, on fait ça, on se chamaille en disant « il faudrait plutôt ci, plutôt ça ». C'est un... Et pour moi, l'image de Pascal est très forte pour décrire ça. Pascal n'avait pas la crise écologique en tête, mais une bonne image, c'est une image que justement, elle va s'utiliser dans différents contextes. Et un peu de ce qui m'amène à la question, que penseraient ou que pensent les sensibilités politiques d'aujourd'hui de Pascal ? Alors Pascal, ce qui est remarquable, c'est que tout le monde peut y trouver une raison de l'aimer. Si tu es un vrai libéral convaincu, tu ne peux que admirer l'entrepreneur audacieux qui bouscule les choses avec un progrès technologique en essayant de changer le monde. Si tu as de l'admiration pour un Steve Jobs, alors pour un Blaise Pascal qui n'était pas moins révolutionnaire à son époque. D'ailleurs, je me souviens d'une discussion, d'un dîner au siège de Google France, avec en invité spécial un grand ponte de la Silicon Valley, qui était professeur à Stanford et l'un des scientifiques seniors de Google, qui commence le dîner en disant que je suis ému d'être ici dans la ville de Blaise Pascal. Et parce que pour lui, c'était le premier informaticien, le premier à vouloir changer le monde avec la technologie et tout ça. Donc ça, c'est du côté des libéraux. Si t'es évidemment dans la droite classique conservatrice, tu ne peux qu'admirer l'emblème du bon parler français élégant, de la religion, celui qui a fait le prosélytisme pour la religion catholique, que le pape propose même de canoniser.
Et puis, il
n'a
pas vraiment proposé.
Non, bon, enfin bon, il a mis ça dans l'air, dans une bulle qui a été contestée, mais bon, quand il a dit, voilà, pourquoi pas un jour. Puis même, Pascal est un conservateur, au sens où il dit qu'il y a un ordre des choses, et même la fameuse phrase qu'il dit, la force sans la justice et la tyrannie, qu'on retrouve souvent et qui est utilisée plutôt à gauche comme une façon de dénoncer la tyrannie, je l'ai vu dans les manifestations contre la réforme des retraites, avec de grands, gigantesques drapeaux français, avec le dessus la force sans la justice et la tyrannie. C'est juste une version tronquée de ce que pense Pascal par rapport à ça. Parce que Pascal, lui, pense que ce qui est fort se voit comme naturellement. Et il faut surtout pas, c'est peine perdue d'essayer de rendre fort ce qui est juste, on n'y arrivera pas. Alors que rendre juste ce qui est fort, ça on peut essayer. Parce que ce qui est fort, ça s'impose naturellement à nous. Alors ça, pour qui a lu les classiques de philosophie politique, ça rappelle le socle de la pensée de Maurras. Maurras, il dit, il y a comme un ordre naturel. Il y a des gens qui sont forts, d'autres qui sont faibles, et c'est bien comme ça. Et quand le poussin naît au monde, ses parents sont forts pour le protéger, il faut respecter ça, et c'est bien cette inégalité naturelle. Et celui qui devient chef, c'est comme naturel, de droit divin. Alors Pascal dit pas de droit divin, il dit bien dans son autre discours que c'est le hasard, mais cet ordre, il faut le préserver et accepter ces inégalités. Donc c'est pas du tout un révolutionnaire. Pourtant, la gauche l'aime bien. Il a ses discours où il dénonce l'absurde du monde, mais aussi même, il a cette brillance et cette rhétorique. Antoine Compagnon nous rapporte qu'à une époque, chez les communistes, on faisait lire les provinciales comme une école de rhétorique. Genre, lis Pascal et tu y trouveras tous les trucs pour combattre le capitalisme avec la langue et les mots. Et puis, les écologistes adorent Pascal.
Pas les idées, mais
la forme. Et puis, les écologistes, eux, adorent Pascal. D'ailleurs, Alain Lipietz, l'un des philosophes qui ont le plus écrit dans l'ouvrage Écologie politique, en parle avec une adoration non masquée. D'abord, parce que Pascal parle du lien entre les choses. Il y a l'homme, le roseau pensant, mais il y a aussi le fait que tout est interdépendant. Par exemple, Pascal nous dit « Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » Pascal nous dit « Le moindre mouvement importe à toute la nature, la mer entière change pour une pierre. » Pascal décrit un homme qui est interdépendant dans son élément. Qui n'est pas maître et possesseur de la nature, mais qui est parmi eux. Pascal a une citation que j'adore qui dit « Nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que le courir est au cheval ». Citation dans laquelle il ne dit pas qu'il y a une différence entre l'homme et le cheval, il ne dit pas qu'il n'y a pas de différence, mais il dit aussi que l'homme, comme le cheval, est porté par ses sentiments, ses aspirations, bref, l'humain, un animal parmi les animaux. Et ça, c'est complètement différent de ce à quoi on a opposé à ce qu'on a réduit souvent la pensée Descartes, l'animal, une machine par opposition à l'homme. Puis, Pascal a ce goût pour les paradoxes qui est aussi l'un des constitutifs de la pensée écologiste. Serge Moscovici, l'un des philosophes les plus respectés en matière d'écologie politique, disait « Les libéraux considèrent que dans le monde, il y a des erreurs à réparer. Tout est régi par des équations, un grand tableau Excel, il y a une erreur ici et là, il faut corriger le coefficient. La gauche, elle, s'attache aux contradictions. Et si à un moment, le développement entre en contradiction avec l'aspiration d'une classe, il y aura conflit. Mais les écologistes s'intéressent aux paradoxes. Exemple de paradoxe, l'effet rebond qui fait que même malgré nos technologies plus perfectionnées, on perd toujours autant de temps dans les transports, où on consomme encore davantage des trucs qui sont plus sobres, etc., etc. Et si on fait le compte, effectivement, les écologistes passent leur temps à parler de paradoxes et non sans raison. Et l'attirance de Pascal pour les paradoxes. L'attirance de Pascal pour les paradoxes, certainement en fait aussi quelqu'un qui est aimé parmi ceux qui ont réfléchi à l'écologie. Pour les communistes, j'aurais pu citer aussi un mot clé qui est cher à Pascal et qui est cher aux communistes, qui s'appelle dialectique. Évidemment, on parle de la dialectique de Marx, on parle de Pascal comme l'un des créateurs de la dialectique. Donc aussi dans la figure rhétorique, la façon d'aborder son raisonnement, la contradiction permanente. C'est normal que des marxistes s'y retrouvent. Donc, voici quelque chose qui est assez surprenant, où on dit que chaque parti, chaque grand courant de pensée politique peut se reconnaître dans Pascal et s'y trouver des affinités. Cependant, qu'est-ce que lui pensait ? À quel parti il aurait adhéré, par exemple ? J'ai posé la question à Laurent Thirouin, qui est de l'Université Lyon 2, qui est à coup sûr le plus grand spécialiste contemporain du Paris et l'un des plus grands spécialistes de Pascal. Et il m'a dit, vraiment bien embarrassé pour le mettre dans un parti. Mais dans mon jeune temps, j'ai écrit un article pour parler de Pascal qui parlait de conservateur de la dérision, conservateur sarcastique. Pascal, c'est un conservateur, mais un de ces conservateurs qui passent leur temps à dénigrer l'ordre conservateur. Tout le temps en train de dire et d'assumer cette position paradoxale, ben, faut respecter l'ordre et les institutions, mais c'est vraiment du pipeau, ça repose sur le hasard, tout ce que nous racontent les gens, c'est du flan. Un conservateur sarcastique, quelqu'un comme ça, normalement, il se fait détester par tout le monde. Les tenants de l'ordre finissent par lui dire, il y en a marre que tu nous dénigres sans arrêt, et les révolutionnaires finissent par lui dire, toi, t'es un révolutionnaire de pacotille, tu passes pas à l'action. Insister sur ce paradoxe. Laurent Thirouin nous dit Pascal, il a la position de quelqu'un que normalement tout le monde finit par détester, mais à la fin tout le monde l'aime. C'est Pascal. Il est unique et il a ses positions, son positionnement très particulier. Alors, dernier truc que je voudrais dire, et dont je m'épanche dans un texte que je t'ai passé il y a quelques temps, un commentaire sur le pari de Pascal que j'ai fait pour l'Institut. L'Institut culturel autrichien, c'est qu'on peut reprendre le pari de Pascal, qui est un pari pour entraîner les gens dans la religion, et on peut le reprendre en disant pour entraîner les gens dans la politique. Et les mêmes termes du pari en reprenant le raisonnement parallèle. Alors le raisonnement du pari pascalien, c'est pas comme on dit d'habitude, comme on dit souvent, ou qu'on voit souvent, c'est bon, le gain d'une vie juste et pure et pieuse, c'est une infinité de bonheur dans l'au-delà. Et donc, même si les chances que Dieu existe sont infimes, j'ai avantage à parier sur cet au-delà. Ça, c'est la version mathématique, mais c'est la version bêta. Le vrai raisonnement de bêta, pas au sens de la première version, mais c'est la version trop triviale. Le vrai raisonnement de Pascal, c'est un raisonnement par l'absurde. Où il dit, écoutez, vous voulez pas croire, ok, vous avez vos raisons. Mais c'est quoi vos raisons ? Vous me dites que vous êtes trop rationnel pour croire ? Ah bon, vraiment ? Et si vous étiez vraiment rationnel, regardez, mettons les probabilités, etc. Ben là, ration, la raison vous demanderait de croire. Si vous croyez, c'est, si vous ne croyez pas, ce n'est donc pas par excès de raison, mais pour d'autres raisons irrationnelles, pour telle ou telle raison, vous ne voulez pas croire. Alors, commencez par adoucir les passions qui vous empêchent de croire. Faites les choses de façon plus mécanique. Abêtissez-vous, c'est la formule qu'il emploie. Faites comme les croyants et voyez ce qui se passe en vous. Bon, en politique, on peut décalquer ce raisonnement. C'est pas complètement original ce que je dis, en particulier, il y a une jolie allusion dans le film de Romer, Ma nuit chez Maud. Et dans le film de Romer, on a un instituteur communiste qui dit à son ami, écoute, est-ce que moi, je suis marxiste, mais est-ce que l'histoire a un sens objectivement? Si on regarde la façon dont le monde va, c'est pas sûr. Il y a peu de chance. Mais comme c'est la seule hypothèse qui donne un sens à mon engagement, à ma vie, ben je suis bien obligé de parier là-dessus. Bon. Et c'est ça qui m'empêche de tomber dans la dépression ou je ne sais quoi. On peut développer encore plus le raisonnement et le rendre parallèle au pari de Pascal. Dire, voilà... Écoutez, vous qui m'écoutez, vous me dites, vous voulez pas vous engager en politique. Vous voulez pas adhérer à tel ou tel parti. Et c'est quoi vos raisons? Vous dites que la politique c'est irrationnel, vous dites que vous êtes trop rationnel. Trop rationnel? Ah bon? Eh ben, mettons les gains, les plus et les moins d'un côté. Qu'est-ce que vous risquez à vous engager en politique? Bon. Peut-être vous allez vous faire insulter par tel ou tel, et alors? Peut-être vous allez perdre quelques heures de votre précieux temps, et alors, il y a bien d'autres raisons de perdre son temps. Et quel gain ? Mais si vous vous engagez pour une noble cause, si vous vous engagez pour la justice, pour la planète ou tout ça, ben, le gain potentiel, c'est sauver le monde. Avouez que, même si vous mettez des coefficients de pondération extrêmement faibles, sauver le monde, ça va battre n'importe quoi. Même avec un coefficient, ça sera incomparablement mieux que le temps que vous avez perdu, ou la gêne que vous aurez ressentie, ou la façon dont vous ferez pourrir. Donc, vraiment, si c'était la rationalité qui vous guidait, la rationalité vous commanderait d'adhérer. Donc, finalement, réfléchissez. Peut-être que ce qui vous empêche d'adhérer, c'est autre chose. Peut-être vous avez une honte par rapport à tel ou tel truc. Vous croyez que être militant, c'est une trahison de ceci ou cela. Vous avez peur de qui sait quoi, etc. Analysez ça. Et en tout cas, si vous voulez pas trop y réfléchir, commencez par aller dans un parti pour voir. Distribuez des tracts. Militez et voyez ce qui se passe en vous. Et si petit à petit, la foi dans les partis, la foi dans l'engagement ne vient pas. Ça serait le parallèle bien plus précis du pari de Pascal vu pour les partis. Je voudrais terminer là-dessus. Pascal, on sait, il aime bien les jeux d'esprit, il aime bien les jeux de mots. Et là, on a un jeu de mots historique qui est extraordinaire. Les partis. La règle des partis. Les partis
étant... Peut-être que tu peux expliquer que c'est comme ça qu'il parlait des probabilités au départ.
Alors voilà, Pascal introduit les probabilités avec sa règle des partis. Et les partis, ça veut dire comment on répartit la mise qui est faite à travers différentes parties. Il y a même au point de vue, on a plusieurs occurrences du mot parti selon l'une ou l'autre orthographe.
Tu crois que c'est un jeu de mots conscient de la part de Pascal ?
À cette époque-là, non. Le mot parti politique n'existait pas. Ou on disait peut-être le parti de ceci, mais il n'y avait pas les partis politiques. Partis politiques tels qu'on les connaît, ils sont arrivés après la Révolution française, ils sont arrivés au 19e siècle. Donc, il n'y avait pas les partis politiques tels qu'on les entend. Donc, c'est un gigantesque jeu de mots historique, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien le voir, qu'on puisse appliquer aux partis politiques, qui n'existaient pas à l'époque de Pascal, ce que Pascal a développé pour les probabilités selon sa règle des partis, comment partager la fortune du pot dans un jeu de hasard. Et j'ai la faiblesse de penser que Pascal aurait bien aimé ce jeu.
Alors finalement, tu ne m'as pas répondu à la question, il voterait pour qui aujourd'hui ?
Je vais y plaquer mes propres sentiments. Non, allez, si vraiment on devait voir les choses, Je pense que il voterait pas pour un parti révolutionnaire, c'est sûr. Il voterait pour un parti qui, selon sa doctrine, voilà, on reconnaît l'ordre établi, on cherche à l'améliorer un peu. À mon avis, c'est un chrétien démocrate. C'est le plus probable. C'est un peu bêta, chrétien démocrate, c'est pas une famille politique qui fait rêver aujourd'hui. Je dis ça sans, j'espère que mes copains chrétiens démocrates qui m'entendent ne se formaliseront pas. Ce sont quand même eux qui ont construit l'Europe. En tout cas, le peu qui a été construit jusqu'à présent, et ils ont une influence politique importante dans les derniers siècles. Donc c'est pas honteux non plus.
Merci Cédric. Je pense que c'est un point de vue original sur Pascal. Merci beaucoup. Merci, bon, merci, service. Merci. Quelle musique te semble adaptée à Pascal ?
En matière de musique, je pense que le premier réflexe, c'est de dire qu'il vaut mieux chercher à s'adapter au style plutôt qu'au fond. C'est un style dans lequel il y a une très grande élégance, beaucoup de paradoxes et une grande fragilité. Je mettrais bien Francis Poulenc pour son côté. D'abord, Poulenc, il a un côté néoclassique. Il est attentif à être dans l'économie, dans l'élégance. Il utilise du clavecin à une époque où c'est plus du tout la mode. Il a un très bon souci de la nuance ici et là.
Alors vous avez écouté le premier mouvement du concert pour deux pianos et orchestre, interprété par Lucas et Arthur Jussen, avec Stéphane Denève.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.